Laudetur Jesus Christus.
Dans l'enfer de Gaza et des distributions de nourriture, les civils doivent aussi compter avec des groupes de Palestiniens proches de l'État islamique et qui sont armés par Israël pour contrer le Hamas. Qui sont-ils? C'est ce que nous verrons. Le gouvernement israélien a lui une autre menace à affronter, la possible sécession du parti Chas. En cause, la loi sur la conscription qui lèverait l'exemption dont bénéficient jusqu'à présent les ultra-orthodoxes que représente ce parti. Nous verrons les enjeux qui se cachent dans cette bataille politique dans notre dossier. 11 ans après la conquête des djihadistes de l'État islamique, la ville de Mossoul dans le nord de l'Irak retrouve peu à peu la normalité. Dernière preuve, la réouverture hier de l'aéroport, une ouverture vers le monde extérieur. Couvre-feu instauré à Los Angeles par la maire de la métropole pour calmer les esprits, mais le président Trump, lui, n'entend pas se calmer. Il a évoqué une ville envahie et conquise par des ennemis étrangers. Audience ce matin au Vatican de Léon XIV avec le secrétaire général des Nations Unies. L'institution célèbre cette année ses 80 ans. Institution que connaissent bien les papes depuis Paul VI et où ils bénéficient toujours d'une oreille attentive.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Obtenir de la nourriture nécessaire à leur survie est à chaque fois un risque mortel pour les Palestiniens de la bande de Gaza. Hier encore, 15 personnes ont été abattues par des soldats israéliens alors qu'elles tentaient d'entrer dans un centre de distribution dans le centre du territoire sous blocus total. Depuis 2 semaines que la Fondation humanitaire de Gaza gère ses aides, plus de 140 personnes ont perdu la vie, tuées par l'armée israélienne ou par des hommes armés sous son contrôle, des membres de groupes qui ont mené ces derniers mois des pillages de convois humanitaires. Il s'agirait de l'aveu même de l'ancien ministre israélien d'islamistes liés à l'organisation de l'État islamique. Selon Avigdor Lieberman, le premier ministre israélien tenterait ainsi de dresser un nouveau groupe pour faire pièce au Hamas, ce que dénoncent les Palestiniens depuis longtemps et en premier lieu le Hamas, Valérie Ferron.
Le Hamas a qualifié les propos d'Avigdor Lieberman de confession sérieuse, prouvant qu'Israël supervise l'architecture du chaos, de la famine et du vol de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Il a appelé les citoyens du territoire à coopérer avec ses services de sécurité pour protéger la population de ce gang. Ce gang qui a par ailleurs été dénoncé également par le clan auquel son chef appartient, qui en 2023 était en fait dans les prisons du Hamas pour vol et trafic de stupéfiants. Le gang qu'il dirige a commencé à opérer après la prise de contrôle par l'armée israélienne de la ville de Rafah et du poste frontalier avec l'Égypte en mai 2024. Il opère donc partout où l'armée israélienne est fortement présente et c'est en fait depuis mai 2024 que l'on a commencé à voir de plus en plus de scènes de pillage sous protection de bombardements et de tirs de l'armée israélienne. Des tirs qui, par exemple, ont fait 6 morts parmi les policiers palestiniens tentant de protéger un convoi dont une quinzaine de camions ont ensuite été pillés. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
La Cisjordanie n'est pas à l'abri des actions de l'armée israélienne qui est intervenue hier à Naplouse. La vieille ville a été bouclée, des dizaines de maisons ont été fouillées. Les soldats ont ouvert le feu contre des Palestiniens qui protestaient contre cette incursion. Bilan 2 morts, 64 blessés selon le Croissant Rouge. L'armée affirme avoir neutralisé des terroristes qui tentaient de voler une arme. Les écoles et les services publics resteront aujourd'hui fermés. À Mossoul, retour progressif de la normalité et renaissance d'une ville martyrisée par le califat de l'organisation de l'État islamique, c'était il y a 11 ans tout juste. Eh bien hier, l'aéroport international a été officiellement rouvert. Les précisions à Bagdad d'Anne-Sophie Lemoff.
L'aéroport utilisé pendant 3 ans comme poste militaire par les terroristes a vu ses pistes sabotées, minées et ses équipements et infrastructures largement détruits. Retombé entre les mains des forces irakiennes en février 2017, ce dernier est resté 5 ans désaffecté. Quasiment 3 ans se sont écoulés depuis que la première pierre du projet de réhabilitation a été posée. Les autorités ont tout mis en œuvre pour accélérer les travaux de reconstruction menés par des sociétés turques afin d'inaugurer sa réouverture ce 10 juin, journée tragiquement symbolique pour les Irakiens. Signe de victoire et de résistance sur le groupe État islamique, le premier vol inaugural Bagdad-Mossoul, avec à son bord le premier ministre irakien Mohamed al-Soudani, était programmé pour ce mardi. Après la reconstruction du vieux centre de Mossoul, puis désormais de l'aéroport, Mossoul et ses 1,5 million d'habitants connaissent des jours meilleurs après avoir vécu l'enfer. À Bagdad, Anne-Sophie Lemoff pour Radio Vatican.
Deux personnes tuées hier dans la région d'Idleb, c'est dans le nord-ouest de la Syrie. Elles ont été abattues lors de deux attaques distinctes par des drones. Aucune revendication n'a été faite, aucune indication ne permet de déterminer l'origine de ces frappes. Couvre-feu nocturne dans le centre de Los Angeles depuis un peu plus de 3h30 maintenant. Décision prise par la maire de la métropole de la côte ouest américaine pour mettre fin aux actes de vandalisme et au pillage, a-t-elle précisé. Malgré tout, des groupes de quelques dizaines de manifestants qui se regroupent pour contre la politique migratoire de Donald Trump sont demeurés dans les rues. La police a d'ailleurs déjà procédé à plusieurs interpellations, a-t-elle indiqué il y a peu. De l'autre côté des États-Unis, le président américain entretient la tension avec ses opposants, affirmant que Los Angeles est envahi par des ennemis étrangers. Après y avoir dépêché la garde nationale et des centaines de Marines, le milliardaire poursuit l'escalade sur son thème fétiche de l'immigration. À New York, Loïc Loury.
Une ville envahie et conquise par des ennemis étrangers, c'est le tableau que peignait hier Donald Trump de Los Angeles. Lors d'un discours prononcé depuis la base militaire de Fort Bragg, le président, une fois encore, a manié un vocabulaire guerrier et incendiaire pour évoquer la situation en Californie, faisant huer Joe Biden et Kamala Harris et qualifiant les manifestants d'animaux. Sur place, de nouveaux défilés avaient lieu hier, mais loin du chaos absolu décrit par Donald Trump. Depuis ce week-end, le président y a fait envoyer 4000 réservistes de la garde nationale et des centaines de Marines sans l'aval des autorités locales. Une offensive tous azimuts contre cet État progressiste et ses dirigeants et contre l'immigration au sens large. Le président appelant même l'Europe à agir contre un phénomène, dit-il, hors de contrôle avant qu'il ne soit trop tard. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Et les manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump font tache d'huile dans le pays, notamment au Texas, où le gouverneur, en pleine nuit, vient d'annoncer le déploiement de la garde nationale. 24 explosions recensées hier en Colombie, chaos dans tout le pays, 8 personnes ont été tuées selon un bilan officiel. Le gouvernement a attribué ces attaques à la faction dissidente des FARC à l'occasion de la mort d'un de leurs chefs. Quant au sénateur colombien Miguel Uribe, 39 ans, candidat à la présidentielle, il lutte toujours contre la mort. À l'hôpital. Il a été touché de 2 balles dans la tête samedi lors d'un meeting. Le tireur, présumé âgé de 15 ans, a lui été inculpé. D'ici une vingtaine de minutes environ, Léon XIV recevra en audience le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Cette année, l'institution internationale célèbre ses 80 ans et les papes n'ont jamais hésité à donner de la voix à la tribune, à sa tribune à New York. Le premier à y prendre la parole fut Paul VI, c'était en 1965, le dernier fut François. Rien d'étonnant, appuyé par la force de son appareil diplomatique, le pape joue un rôle unique dans les institutions internationales. C'est ce que nous explique Cécile Aptel, elle est directrice adjointe du bureau prospectif de l'UNICEF, une institution onusienne.
Le Saint-Siège est à la fois un État et aussi une autorité religieuse et morale. Et en combinant ses attributs d'être un État, ce qui lui donne l'accès en fait aux forums multilatéraux en tant qu'État et cette autorité morale, ça permet au Saint-Siège de jouer un rôle qui est important dans les instances multilatérales. S'agissant notamment de la possibilité de s'assurer du respect du droit international, notamment des droits des enfants, mais aussi du droit international humanitaire qui réglemente la conduite des conflits armés, le Saint-Siège est en mesure de rappeler à tous les États, dans les instances multilatérales comme l'ONU, l'importance de ce respect, l'importance du droit et l'importance de s'assurer que même les conflits ont des limites, que même lorsqu'en situation de guerre, il y a certains qui doivent être protégés et que c'est le cas notamment des enfants, des civils en général, mais en particulier des enfants. Et aussi d'insister sur l'importance de protéger les hôpitaux, les structures telles que les écoles, les édifices religieux évidemment. Et le Saint-Siège a joué et on l'espère va continuer à jouer ce rôle extrêmement important de rappel du fait que même dans les conflits, même dans les guerres, il y a des limites qui s'imposent et qui doivent être respectées.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. Et après cette entrevue, le pape rejoindra la place Saint-Pierre pour l'audience générale, à suivre sur notre site internet ou notre page Facebook. Dans notre dossier retour au Proche-Orient, en Israël, où couve une crise politique, deux partis ultra-orthodoxes menacent de faire exploser la coalition scellée avant la guerre avec le Likoud de Benjamin Netanyahou. Les partis Chasse et Yahadut HaTorah pourraient en effet voter ce mercredi en faveur d'une dissolution du Parlement et d'élections anticipées. Ils se sentent en effet trahis. Le Premier ministre refuse en effet de soutenir ouvertement une dispense totale du service militaire pour les juifs ultra-orthodoxes. Les Haredim. Denis Charbit est professeur de sciences politiques à l'Université ouverte de Tel Aviv.
Ce que demandent les partis orthodoxes, c'est une dispense définitive. Et une telle loi, qui sans doute serait passée dans un autre contexte que celui que nous connaissons depuis octobre 2023, là, on est dans une mobilisation de longue durée qui nécessite la participation de centaines de milliers de réservistes. Un réserviste, c'est un civil à qui on dit « là, tu vas arrêter d'aller à ton travail et de revenir chez toi tous les soirs pour participer à l'effort de guerre ». Il y en a qui ont fait déjà près d'un an de réserve. Et discuter de l'exemption des orthodoxes dans un contexte pareil, vous imaginez à quel point ça soulève en Israël le sentiment que trop c'est trop. Et donc ça bloque. La coalition gouvernementale estime qu'elle ne fait un texte pareil dans le contexte actuel de la guerre. Alors, bien entendu, le Chasse et d'autres partis religieux s'estiment trahis, puisqu'ils disent « on avait signé un accord de coalition, c'était avant le 7 octobre, en vertu duquel on voterait cette loi qui permettrait cette dispense ». Et le Chasse et le parti du judaïsme de la Torah estiment que Netanyahou nous l'avait promis, puisqu'il n'est pas capable de nous le promettre, nous allons à la dissolution du Parlement.
Donc les partis ultra-orthodoxes et la moitié de la coalition souhaiteraient une dispense totale du service militaire pour les Haredim. Vous l'avez dit, il y a un blocage au sein de la coalition. Coalition formée évidemment du parti de Netanyahou, le Likoud. Est-ce qu'il y a un consensus contraire à cette demande au sein du Likoud justement ?
Le Likoud, dans la mesure où c'est un parti nationaliste, il ne faut pas l'oublier, c'est pas un parti pacifiste qui dit la guerre c'est pas bien. Non, non, ils ont décrété la guerre, ils ont déclaré la guerre. Enfin, c'est le gouvernement bien sûr qui l'a fait, mais eux, ils ont quand même dans leur pédigré politique le fait que le service militaire et les réserves, ça fait partie des devoirs du citoyen. Et voter une loi dans laquelle ils décideraient pour maintenir la coalition entière, on va en dispenser une bonne partie. Ça, c'est quelque chose qui, politiquement, ne passera pas. Et d'ailleurs, si à hasard, cette loi de dispense serait votée, et ils ont une majorité pour le faire, mais ils comprennent bien que politiquement, ce serait très contesté, et aux prochaines élections, ils pourraient être sanctionnés parce qu'ils ont assumé de dispenser une partie de la population de ses devoirs militaires à un moment où, depuis 18 mois, des soldats israéliens tombent au combat.
Voter cette loi serait extrêmement impopulaire. Il va falloir donc trouver un compromis pour dépasser ce point de blocage.
Je dirais, averti de ces crises ouvertes, ostentatoires, etc., on se dit toujours qu'à un moment, ils vont trouver un arrangement. Alors, il y aura peut-être 1000 orthodoxes ou 2000 orthodoxes qui devront faire le service militaire, mais pas tous, etc. On va trouver un arrangement. Parce que s'il n'y a pas d'arrangement et qu'ils votent la dissolution de la Knesset, alors ça se fait en trois lectures, donc il y a le temps, ce ne sera pas en trois jours, alors effectivement, ça veut dire que septembre-octobre, il y a des élections et deux ans après le 7 octobre, faire des élections, c'est très risqué pour Benjamin Netanyahou, compte tenu du fait qu'à côté de certains succès tactiques et stratégiques, foncièrement, le résultat de l'opération militaire n'est pas encore évident. Enfin, le Hamas ne s'est toujours pas rendu. Donc dans une situation pareille, des résultats mitigés concernant la guerre, sans parler de l'isolement d'Israël au niveau international, plus la dispense des orthodoxes, c'est quand même un très mauvais agenda pour se présenter devant les électeurs si les élections ont lieu à la rentrée prochaine, à l'automne prochain.
Et donc, quelle stratégie pour Benjamin Netanyahou ?
Donc, lui, ce qu'il souhaite, là, c'est temporiser, c'est de dire, allez, accordons-nous un mois et demi jusqu'à la fin juillet. Les députés partent en vacances fin juillet, ils reviennent en octobre. Et en octobre, allez, on n'aura pas avancé sur la loi, mais on pourra toujours déterminer un calendrier puisque le gouvernement aura tenu au moins trois ans. Et trois ans, dans la vie parlementaire israélienne, c'est de bonne tenue. Ce n'est pas une dissolution anticipée excessive.
Interrogé par Marie Duhamel, Denis Charbit était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, donc, l'audience générale du pape Léon XIV, place Saint-Pierre. En attendant, très bonne journée à toutes et à tous.